Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans Poire et Cahouette, le podcast de Slate.fr dédié à l'actualité des idées. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et j'anime Poire et Cahouette comme toujours avec Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste. Salut Jean-Laurent.
Salut Hélène.
Ça y est, on est déconfiné, la France repart, les rotatives tournent, les magasins rouvrent et les maisons d'édition peuvent à nouveau publier des livres. Ce qu'elles n'avaient pas fait depuis le mois de mars, toute la chaîne de production et de diffusion a été bloquée ces deux derniers mois. Et là, à nouveau, les parutions sont en marche, on commence à recevoir les programmes des maisons d'édition avec des premiers essais qui vont paraître autour de mai-juin. Et donc, on s'est plongé dans ces programmes avec Jean-Laurent pour voir un peu si le Covid avait inspiré les auteurs et même s'il avait vampirisé un peu tous les thèmes d'essai, chacun dans sa discipline, essayant de raccrocher les wagons plus ou moins aisément. Alors, est-ce qu'on assiste à un opportunisme éditorial autour du Covid, chacun dans sa discipline voulant publier son livre autour du Covid en raccrochant les wagons de manière plus ou moins habile, ou est-ce qu'on assiste à des vrais idées novatrices et des prises de parole un peu différentes de d'habitude? Jean-Laurent, tu as mis le nez dans les programmes, qu'est-ce que t'en retiens?
Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a au moins deux catégories d'essais qu'on va retrouver sur les tables des libraires. Il y a d'abord les essais qui étaient en cours d'élaboration avant le Covid, c'est-à-dire depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Ce sont des auteurs qui donc ont pris pour certains le train en marche. Ils ont pu amender leur projet, c'est-à-dire intégrer la dimension Covid à leur texte, ou quand c'était trop tard, ils ont pu minimal intégré dans l'argumentaire, c'est-à-dire dans la manière de présenter le livre aux médias. C'est ce qu'on perçoit d'ailleurs assez bien dans les communiqués de presse. On voit que il y a eu cette volonté et même cette obligation de raccrocher un petit peu le sujet Covid à des textes qui étaient en cours d'élaboration depuis un moment. Et puis il y a la deuxième catégorie de livres, la deuxième vague, j'ai envie de dire, qui est celle des livres opportunistes et de circonstances. C'est-à-dire que ce sont des livres qui ont été commandés dans la foulée de l'épidémie et qui traitent spécifiquement du Covid, de ses causes et de ses conséquences. Alors ces livres, ils paraissent courant juin, on va les retrouver maintenant pour les plus rapides, et leur parution va s'échelonner jusqu'à l'été, donc en plusieurs vagues. Alors quant à l'ampleur de la vague, on sait assez précisément à quoi s'attendre grâce au sociologue Vincent Chabot, qui enseigne à l'Université de Paris, qui s'intéresse au marché du livre. Il a récemment publié sur Twitter une liste des livres à paraître qui mentionnent Covid en titre ou dans leur argumentaire. Il y en a près de 44, ce qui est énorme. J'ai donc appelé Vincent Chabot pour qu'il nous explique un petit peu comment il analyse cette profusion de livres consacrés au Covid.
Quand on regarde un peu les listes, il y a cinq catégories qui se dégagent. Parmi ces essais et ces documents, il y a les penseurs un peu, c'est-à-dire les figures censées nous donner la voie, nous montrer le chemin. Donc là, il y a un livre d'Edgar Morin qui est programmé, un livre de Bernard-Henri Lévy aussi, qui sera peut-être le premier à sortir sur le sujet, début juin, je crois. Ensuite, il y a des témoignages du personnel médical. Nous n'étions pas prêts, de Gilles Pialoux, par exemple, qui est chef de service, je crois. Paroles d'internes. Bon, voilà, ça c'est évidemment pas surprenant. On a aussi un groupe qui rassemble des autorités médicales qui coordonnent des guides pratiques et parfois qui vont dériver vers des médecines alternatives par rapport à l'immunité ou tout savoir sur le virus, etc. On a également des essais médiatiques programmés qui regroupent un peu des leçons à tirer de la crise. Il y a par exemple Émeric Caron qui va sortir un livre qui s'intitule « La revanche de la nature ». Et puis des hommes politiques, hein, je souligne, François Ruffin, voilà. Et puis donc ça c'est un peu les cinq familles. Il y en a une qui se dessine, et bon, c'est pour l'anecdote, l'éditeur breton Jean Picolec sort chez Jean Picolec Édition Confinerie, humour en temps de Covid, voilà. Donc ça c'est un peu la sixième catégorie.
Ouais, donc Vincent Chabot nous propose une typologie par type d'auteur, un peu par figure, et c'est vrai qu'il y a des gros noms qui signent en cette période. On peut aussi faire une typologie par thématique, et c'est vrai qu'il y en a deux qui ressortent tout particulièrement. Bon, trois en fait si on prend la santé aussi, notamment les témoignages de médecins, etc. Mais on va passer rapidement là-dessus pour s'intéresser plus au domaine des idées. Et là, les deux thèmes principaux, c'est écologie, collapsologie, la nature, le monde sauvage et la crise ou les crises. Donc dans le thème nature sauvage, on trouve Émeric Caron, hein, qui a cité Vincent Chabot avec La revanche de la nature. On trouve aussi l'autrice Émilie H. à La découverte qui publie Ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique. La découverte qui met aussi encore beaucoup en avant Bruno Latour, auteur un peu star du moment, dont on vous avait déjà parlé dans le Poire et Cahouette sur l'exode des villes. Et le deuxième thème, sur la crise, sur les crises. Alors, c'est là où on retrouve des beaux noms de la sociologie et de la philosophie. On a donc Edgar Morin qui signe sur la crise. On a le philosophe marxiste Slavoj Žižek qui signe chez Actes Sud au cœur de la tempête virale. Il y a BHL aussi, Bernard-Henri Lévy, chez Grasset, ce virus qui rend fou. Voilà, donc le thème des crises, de nos modes de vie qui sont bouleversés, de notre incapacité à habiter le monde, tout ça sont des thématiques qui sont très très porteuses. Nous sommes le problème, et Aurélien Barreau, l'astrophysicien et essayiste, le disait très bien sur le plateau de la Grande Librairie le 20 mai dernier. Il avait cette explication qui était assez symptomatique de l'ambiance du moment.
En ce moment, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle du monde d'après. Après cette pandémie. Et moi, la réponse que j'ai envie de donner, c'est qu'il n'y aura pas de monde d'après parce que le monde est mort. Non pas en un sens catastrophiste, bien sûr, ou millénariste. Il y aura demain toujours des humains, des insectes et des montagnes, ça ne fait aucun doute. Mais le concept de monde, mundus en latin ou cosmos en grec, ça réfère à l'idée d'une harmonie partagée. Ça réfère à l'idée d'un commun qui n'a jamais existé en pratique, mais qui a été pensable en fait. Et je crois que ce que la mondialisation consumériste et productiviste a paradoxalement entraîné, c'est la disparition du monde. C'est-à-dire la disparition de la possibilité de penser ce partage. Et l'épidémie, son rôle là-dedans, ce n'est pas d'avoir tué le monde, bien évidemment, mais c'est d'avoir servi de déclencheur pour faire effondrer ce château de cartes et pour avoir montré, pourrait-on dire, l'artifice de cet édifice.
Ce que dit Aurélien Barreau sur le plateau de la Grande Librairie pendant la crise du Covid, il aurait pu le dire il y a 6 mois, il le dira probablement dans 2 ans. En fait, ce qu'on constate, c'est que les tendances de librairie, elles n'ont pas été tant que ça modifiées, bouleversées par le Covid. Si on s'intéresse aux meilleures ventes d'essais, ce qu'on a fait avec Vincent Chabot, on constate qu'en fait, le monde d'après, il ressemble un peu au monde d'avant, en tout cas en librairie. Les meilleures ventes, ce sont celles des grandes signatures, un peu passe-partout, les Edgar Morin, les Boris Cyrulnik. On repère aussi le comeback d'auteurs incontournables comme Pierre Rabhi, André Comte-Sponville. Également, les 4 accords Toltec, un grand classique international du développement personnel qui marche très bien. Et puis, on a la famille qui croit chaque jour des essais consacrés à la nature, à l'ensauvagement, à la forêt, avec les manières d'être vivant de Baptiste Morisot chez Actes Sud qui parle de la traque des loups, les sorcières de Mona Chollet qui continuent à cartonner chez Zone, et le plus grand défi de l'humanité d'Aurélien Barreau chez Michel Lafond dont on a parlé. Et enfin, on observe un retour ou un maintien des livres qui font la critique du monde du travail, que ce soit les classiques Bullshit Jobs de David Graeber, Au lien qui libère, ou L'éloge du carburateur de Matthew Crawford, À la découverte. Voilà, donc beaucoup de livres en librairie en cette pré-rentrée d'avant l'été. Entre les nouveautés Covid et les long-sellers, les livres qui se portaient déjà bien, ça va faire beaucoup et ça repose une question lancinante ces dernières années qui est celle de la surproduction éditoriale. On écoute à nouveau Vincent Chabot.
Donc il y a 2 choses qui m'ont frappé, c'est effectivement la réactivité des éditeurs avec le nombre de titres programmés. Il y en avait 25 le 4 mai et 44 le 25 mai. Et deuxième élément, qui les écrit? Et ça c'est quand même extrêmement étonnant, quoique ça reste discutable. Sur 25 titres le 4 mai, il y en a 20 écrits par un homme, 2 par une femme et des collectifs, 3 collectifs. Et le 25 mai, la tendance se renforce, 28 livres programmés écrits par un homme, 2 par les femmes et 10 par des collectifs. Donc ce simple relevé traduit ce qu'on savait déjà, mais ça le témoigne une nouvelle fois avec force, l'inégalité criante en termes de prise de parole et d'assurance finalement à donner son avis, son analyse de la situation. Moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu donc contre les déclarations visant à la sobriété éditoriale. Il y a l'enjeu pour toutes ces maisons-là de se positionner sur le Covid et sur les réflexions autour du Covid. On a pu voir ça aussi au moment des Gilets jaunes, pour des résultats économiques peu évidents. Voilà. Donc, c'est pour ça que finalement, je trouve un peu ce positionnement et cette course un peu démodée finalement, puisqu'on le sait, on sait déjà par le passé que les quelques livres seulement sortiront du lot et qu'une grande partie, bien entendu, ne seront pas, comme disent certains libraires, déballés du carton.
Oui, alors ce que nous dit le sociologue Vincent Chabot, c'est quand même que le monde de l'édition de demain ressemblera quand même un petit peu à celui d'hier. Et pourtant, c'est quand même un secteur qui a été très durement touché par le Covid, puisque en fait, tout le circuit a été bloqué, hein, le circuit de prod. Alors certes, les auteurs, les philosophes et sociologues continuaient à penser, et peut-être qu'ils avaient du temps pour écrire, mais les rotatives ne tournaient pas, le circuit de distribution était bloqué. Donc, il y a effectivement énormément de livres qui n'ont pas pu paraître. Et la question qui se pose maintenant, c'est que vont-ils devenir ? Est-ce que leur sortie va être repoussée, justement, là, sur les programmes de mai-juin ? Est-ce qu'il va devoir y avoir des sacrifices dans le tas et qui les fera ? Antoine Gallimard, le patron de Madrigal, le gros groupe conglomérat qui regroupe plusieurs maisons, dont Gallimard, parlait de report de parution sur 2021. On va certainement en passer par là. L'Express aussi en parlait sous la plume de Marianne Payot. Il va y avoir des réductions drastiques dans les programmes de parution, moins 60% de publications chez Stock, moins 70% aux Arènes, moins 70% aussi chez Albin Michel et moins 80% chez Grasset. En fait, on s'attendait à un engorgement des librairies au moment de leur réouverture, mais finalement, le marché du livre va rester très raisonnable et même plutôt en déclin, puisqu'on s'attend entre 20 et 40% de titres en moins sur l'année 2020, à voir si ça concerne aussi les essais.
Oui, et le paradoxe, c'est que malgré cette réduction du nombre de nouveautés, le lecteur aura l'impression de crouler sous les références en librairie. En fait, ça fait plusieurs années que le sujet qui était auparavant tabou de la surproduction éditoriale est sur la table, parce que en réalité, on publie de plus en plus de livres pour en vendre de moins en moins par livre. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut publier plus pour gagner moins. Et ça ressemble un peu à un cercle vicieux pour le secteur, c'est-à-dire que face à la crainte d'une baisse des ventes, il y a une tentation qui est de produire toujours plus pour se maintenir à flot. Et ça ressemble aussi pour les éditeurs et pour les auteurs à un dilemme du prisonnier. C'est-à-dire qu'aucun acteur n'a intérêt à faire de la décroissance tout seul. On peut se demander qui aura envie de se sacrifier pour la prochaine rentrée littéraire, qui renoncera à publier son livre sous prétexte qu'on a trop de références. Donc voilà, ce sont un peu les contradictions du secteur éditorial qui sont soulevées par cette crise. Vincent Chabot mentionnait la référence aux Gilets jaunes. À l'époque déjà, les tables des libraires étaient totalement jaunes. Elles étaient envahies de livres de circonstances sur ce mouvement de révolte. Assez peu ont marché. C'est le signe que ces quick books qui permettent aux éditeurs de se positionner, mais ne font que rarement des best-sellers. Et l'ironie supplémentaire qu'on peut soulever pour ce qui concerne le Covid, c'est qu'on constate un décalage assez flagrant entre le message de ces futurs livres, hein, qui vont dénoncer, on peut s'y attendre, la surconsommation, l'épuisement des ressources naturelles, et la pratique éditoriale qui consiste à surpublier sur le thème, encore une fois, pour être présent. Alors que de toute manière, on s'en doute, les gens préféreront pour cet été lire du Guillaume Musso, comme d'ailleurs à peu près tous les étés.
Où est Elena Ferrante, pour ma part, ce sera ça mon livre de l'été. Mais bon, si on en revient à la liste de Vincent Chabot, il y a peut-être quelques titres quand même qui, a priori, font envie, non, Jean-Laurent ?
Alors moi, dans la liste des grands auteurs qui réfléchissent sur le monde, la crise écologique et le néolibéralisme, je pense que je vais passer mon tour pour cette fois. En revanche, je signalerai la parution du livre de mon camarade Jérôme Fourquet qui a, avec l'IFOP, suivi des Français pendant tout le confinement et qui en publie donc la synthèse. Ça s'appelle « En immersion, enquête sur une société confinée » et ce sera publié au Seuil. Et je mentionnerai également la parution de la revue ID, numéro 7 et 8, revue d'actualité des essais, un petit peu comme Poire et Cahouette, qui a consacré un dossier face au Covid-19, qui croire, dans lequel de nombreux intellectuels ont été interviewés. Et il y a aussi une petite surprise dans ce numéro.
Bah, écoute, moi, je suis curieuse de lire quand même ce que Bernard-Henri Lévy a à nous dire de cette crise. Donc, je retiens le titre de son livre dans la liste. Et puis, peut-être celui du philosophe Slavoj Žižek pour rester dans les classiques marxistes. Merci Jean-Laurent pour ces conseils de lecture et puis on reviendra sur les parutions plus axées Covid sur lesquelles tu vas quand même devoir te pencher dans de prochains Poire et Cahouette. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Poire et Cahouette sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé Poire et Cahouette, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous.